Eh bien, on te laisse officier.
Ok.
Bonjour, merci beaucoup. Je voudrais commencer par un extrait vidéo.
I know what you're thinking, punk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself and all this excitement. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
Punk. Voilà. Il y a de la violence, hein, je coupe. Alors, effectivement, il y a 30 ou 40 ans, on nous disait nos futurs. Et 30 ou 40 ans plus tard, il faut bien se rendre à l'évidence, il y a un truc qui n'a pas marché complètement comme prévu, on n'est pas mort, on est toujours là, on a eu un futur et il va falloir en tirer quelques enseignements. Alors, est-ce que Sid le vicieux ou Johnny le pourri nous ont menti? Ou est-ce qu'en fait, c'est Harry le dégueu, le porte-flingue de l'ordre établi qui a gagné? Ou alors est-ce que finalement on a essayé d'adhérer à un certain punkisme en soutien des voriens et des nuls de la société? À voir. Enfin, quand je dis on a adhéré, je m'inclus pas forcément. J'ai jamais été assez jusqu'au boutiste ou j'ai jamais eu suffisamment de cran pour vivre libre et mourir. J'ai trop de respect pour l'esprit punk pour oser m'en revendiquer. Pour le punk, en tant qu'état d'esprit, parce que c'est ça qui va m'intéresser, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu en entonnoir, j'arrive en prenant un peu large, je vais m'intéresser à l'esprit plutôt qu'au mouvement musical. Donc pour le punk, notre simple, le fait même qu'on existe nous condamne à être les agents de la violence dont on est issu. Hein, forcément, hein, en tant qu'homme blanc de 40 ans, je sais de quoi je parle. Et le seul moyen finalement d'épargner les autres de cette violence qu'on ne pourra pas s'empêcher de reproduire, c'est évidemment de la retourner avant tout contre soi. C'est ce qu'ont méthodiquement entrepris tous les copains punk de ma génération. Et c'est d'ailleurs pas très étonnant parce qu'un fanfan en rangée des voitures disait encore il n'y a pas si longtemps qu'il y a une certaine autodestruction liée à la culture punk. Alors, quand j'ai accepté de participer à ce colloque, évidemment, j'ai cherché une caution et j'ai contacté mes vieux poteaux quepons. Et le premier truc qu'ils m'ont dit, en fait, c'est que, assez unanimement d'ailleurs, c'est qu'en fait, les Bérus, c'est pas du punk. Les vrais Bérus, ceux du début, avec Olaf, etc., oui, mais les Béruriers noirs, ça se discute. Ça se discute parce qu'ils étaient trop sérieux, trop engagés politiquement, parce qu'ils ont fait peut-être trop de gros concerts, qu'ils sont trop passés à la télé, qu'ils étaient trop dans leur temps, en fait. Trop dans leur époque et trop... Voilà. Les avis les plus modérés de ces copains quepons concédaient néanmoins que les Bérus avaient pu faire en quelque sorte une passerelle entre une certaine scène punk, hein, type Strychnine ou Stalag, et le rock alternatif qui allait leur succéder. Bon, à vrai dire, c'est querelle un peu de chapelle. Est-ce que c'est du punk ou pas? Ben, ça doit bien faire marrer les punks dans leur cimetière, enfin, pour ceux qui sont morts. Et puis, il faut bien reconnaître qu'à partir du moment où on a du succès, qu'on fait partie d'un patrimoine, qu'on est un groupe phare, et ben, il y a quelque chose d'assez antinomique avec la notion même de punk. D'ailleurs, le chapeau de mon intervention, c'est phénomène ou supercherie. Je ne sais pas si ça parlait du punk ou des Bérus, mais finalement, quelque part, tout phénomène n'est-il pas une supercherie? Alors, ça m'a bien arrangé que mes copains quepons me disent que les Bérus, c'était pas du punk, parce que, en fait, j'ai jamais vraiment kiffé les Bérus. Il y a une certaine démagogie dans les textes, les musiques qui se ressemblent toutes, enfin bref, vous connaissez les critiques. Et puis, voilà, à l'époque où le socialisme était au pouvoir et Jack Lang, ministre de la Culture, où était la prise de risque que d'emmerder le Front National? Le danger, c'était quoi, de fâcher les fachos? On s'en fout, hein, des fachos. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'il est un peu biaisé, à mon avis, de réduire le punk à un courant de pensée humaniste ou universaliste. D'ailleurs, dans le punkisme, il n'y a pas que des gauchos. Hein. Il y a, par exemple, les skinheads néo-nazis du mouvement Rock Against Communism. Ils ont commencé par le punk, avec le groupe Screwdriver, qui au début était bien engagé à gauche, et puis après, dans sa deuxième formation, qui s'est bien radicalisé en mode identitaire. Et puis, il y avait aussi, au milieu des années 90, en France, la mouvance RIF, hein, le rock identitaire français, qui a produit pas mal de punk. Et d'ailleurs, le chercheur Nicolas Lebourg, chercheur spécialiste de l'extrême droite, dit que le RIF, donc le rock identitaire français, est loin de la provocation du RAC, du Rock Against Communism, visait à amener de nouvelles personnes aux idées nationalistes pour devenir finalement, pour être à l'extrême droite, ce que des groupes comme les Beru ou Zebda étaient à l'extrême gauche. Donc le punk politiquement peut être assez protéiforme. Et on peut aussi se demander si le succès des Beru ne tient pas à ce qu'ils étaient à la figure de proue d'une nouvelle culture dominante s'efforçant de séduire cette jeunesse qui pouvait voter dès 18 ans en 81 pour la première fois et qui a donc mené les gauchos au pouvoir. Si un Le Pen avait été élu, il se présentait déjà à l'époque, peut-être que c'est un groupe punk à invitant à emmerder la société judéo-maçonnique qui aurait fait bouger les jeunes à l'époque. Bon, ok, je pousse un peu loin l'Uchronie, mais voilà, si on met en regard les Beru et puis un mec comme Jean-Louis Coste, que vous connaissez sans doute, hein, qui fait partie de ces gens qui a poussé vraiment l'esprit punk assez loin, il va en rejetant dos à dos la musique, le rythme, la mélodie, un son normal, mais même aussi tous les extrêmes, toutes les modes, les styles, tous les discours. Son œuvre radicale lui a valu d'ailleurs d'être ostracisé, de connaître pas mal de déboires judiciaires complètement injustifiés pour les exégètes qui ont analysé un peu son travail. Et ça, bon, voilà, ça on peut dire que se faire ostratiser, avoir des déboires judiciaires, ça c'est punk. Donc voilà, je voudrais évoquer ce punk qui n'est ni de droite ni de gauche. Ce punk qui est une tradition de pensée avant d'être un mouvement musical. Et je vais l'évoquer donc sous quatre angles, on va dire, le politique que je viens d'aborder, le philosophique, le personnel et le spirituel. Quel vilain mot. Pour conclure, vite fait sur le politique, je voulais juste poser la question des implications sociétales du no futur, parce que le no futur punk, c'est pas le carpe diem. Hein, le no futur, c'est vraiment, voilà, c'est pas profite, cueille la fleur du jour présent. Non, c'est no futur. Ce qui nous attend, c'est le néant, l'oubli, la mort. Alors défonçons-nous. Et puis voilà. Et est-ce que finalement les youpies des années 80, c'est-à-dire tous ces traders défoncés à la coke en mode loup de Wall Street, qui brassent des millions en se foutant des conséquences du moment qu'ils peuvent s'envoyer en l'air, est-ce que cet ultra-libéralisme égoïste et auto-centré n'est pas une espèce de manifestation d'un certain nihilisme punk? On casse tout, on se défonce, seuls les potes comptent, on s'en fout des autres et du reste, on exploite ce qui est exploité et après nous, rien à battre. Alors bien sûr qu'en disant cela, je nie les origines plutôt prolétaires, populaires, voire précaires du mouvement punk. Mais bon, il est vrai aussi que les grandes figures du punk ne sont pas restées forcément prolétaires bien longtemps. Donc c'est pour ça que je considère pas que... c'est pour ça que le punk, le mouvement punk, la pensée punk à laquelle je fais référence, n'est certes ni de droite ni des gauches, mais n'est pas pour autant un mouvement complètement nihiliste, même s'il a toujours cette tentation fortement chevillée au corps. Comme je l'ai dit, le punk retourne contre lui-même la violence dont il est issu pour en épargner les autres. Donc il y a une certaine éthique, on va dire. C'est pas complètement nihiliste. Voilà pour la partie politique. Pour la partie, je dirais, un peu philosophique, alors si j'ai beaucoup de respect pour le courant de pensée, je dois vous dire que de la même manière que j'ai jamais tellement kiffé les Beru, j'ai jamais vraiment aimé le punk période 76-80. Pour moi, le punk, c'est la vieille blague du mec qui te met un album de chansons qui se ressemblent toutes. 1, 2, 3, 4. Et puis, vers le 7e ou 8e morceau, il dit « Écoute, celle-là, c'est la meilleure de l'album. » Voilà. Alors, il m'a fallu 40 ans pour trouver mon style musical. Et en fait, c'est le rock garage. Et j'ai découvert, en préparant cette intervention, qu'on appelait ça le proto-punk. Donc, c'est cool, je suis quand même un peu dedans. Pour moi, donc, le rock garage ou le proto-punk, c'est le moment où on a associé à ces musiques peut-être venues d'Afrique, venues du blues, un certain blues blanc. C'est-à-dire, ça groove pas, c'est carré, 1, 2, 3, 4, c'est urbain, c'est métallique. Et c'est vraiment peut-être spécifiquement le blues de la société occidentale de l'époque. Et ça, et voilà. Et pour moi, de fait, si on considère le proto-punk, pour moi, le premier vrai manifeste du punk, c'est pas le morceau de Richard L. Blanc Generation, c'est ce morceau-là. Je vais vous passer au moins le début et je vais essayer de vous afficher les paroles. We'll be right back.
hurt me. I live a lie that was meant for me. What I respect, you just can't see. What you expect, I'll never be.
Le Primitive des Groupies, sorti en 1966, par les paroles, on est un peu dans ce que j'essayais de décrire, ni de droite, ni de gauche, pas complètement nihiliste et en même temps déjà bien à la marge. Et effectivement, quand on est punk, enfin dans une certaine imagerie d'Épinal du punk, on est trash, on casse, on détruit, on s'autodétruit. Mais on respecte aussi quelque chose qui n'a ni forme ni nom. What I respect, you just can't see. What you expect, I'll never be. Anarchiste et pas nihiliste, le punk fait des fanzines, des graphes, de la musique. Il vandalise les symboles bourgeois et capitalistes. Nihiliste, il se défonce à l'alcool, à l'éther, au buvard ou au brown. Et il s'en fout de perdre quelques ratifs dans des bastons de rue du moment que c'est pour la bonne cause. Le punk va nu-pied. Il emmerde l'autorité, la terre et sa maison. Il mange par terre et dort dans un pack de crocs. Il vous dirait que les choses importantes sont gratos et que c'est le superflu qui coûte cher. Le punk se promène avec sa lanterne en plein jour, il vous la fout dans la gueule et il dit « je cherche un être humain véritable ». Le punk s'entraîne à l'échec en demandant de la thune au statut. Vous l'aurez compris, le premier punk, au fond, c'est Diogène de Sinope, le mec qui vivait dans son tonneau. Voilà, y a une certaine école cynique qui remonte à bien avant l'invention des boîtes à rythme. Alors, le philosophe, est-ce qu'on peut dire que toute démarche philosophique est au fond un petit peu punk tel que j'essaye de le définir? Je dirais que oui. Parce que ça m'arrange, c'est moi qui le dis, alors forcément je vais être d'accord avec moi. Mais le philosophe cherche la vérité sans jamais la trouver, parce qu'elle sait qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas un truc auquel on va accéder, là, ah, c'est la vérité, génial et tout. Non, c'est un chemin, mais ce chemin lui permet de démonter les préjugés, les dogmes, les conventions sociales. Je parle des vrais philosophes, hein, pas de ceux qui encouragent à aller faire la guerre ou qui, après un ou deux AVC, se mettent à débattre avec des candidats d'extrême droite. C'est pas ça que j'appelle des philosophes, pas tout à fait, pas vraiment. Ça, c'est des polémistes, des essayistes. Bon. Et d'ailleurs, le parallèle entre cette espèce de philosophie un peu primale et le punk, on peut les rapprocher si on considère la définition que John Savage donne du punk dans son fameux bouquin « England's Dreaming ». Il dit que le punk, c'était une esthétique intense qui comportait une série de messages. La liberté existentielle du beat des années 50, l'autodestruction magnifique du poète maudit, le côté tranchant comme un rasoir des modes des 60s, ça signifiait le danger et le refus. Exactement comme le t-shirt déchiré parlait de sexualité et de violence. Si une telle chose peut être identifiée, ce fut l'origine de ce qui deviendrait le steampunk. Alors le punk, comme le philosophe, a conscience que tout est périssable. Pourtant, il ne se prend pas à imaginer pour autant un arrière-monde, un au-delà, ou que sais-je. Pour le punk, tout est apparence. Non pas apparence de quelque chose, mais apparence pure. Apparence en soi, pour soi. Le monde est un voile qui, quand on le déchire, révèle le néant. Rien, que dalle, que chi. La réalité est imparfaite, corruptible, mouvante, mais on s'en fout. Le punk s'en fout, il s'abstient de tout jugement. Et il fait avec ce qu'il y a, et s'il n'y a rien, bah, il s'en fout pareil. Pour lui, rien n'est plutôt ceci que cela. Ni même ceci et cela, et encore moins autre chose que ceci ou cela. Le punk vous dirait que rien n'est beau ni laid, ni juste ni injuste, ni vrai ni faux. Et que de même pour tous les attributs de ce genre, aucun n'existe en vérité, mais que c'est par coutume et par habitude que les hommes font tout ce qu'ils font. S'il y avait par exemple un trou dans la chaussée sur la route du punk, le punk ne l'éviterait pas, parce qu'il ne croit pas au trou. D'ailleurs, il ne croit pas non plus à l'idée de chaussée ou à l'idée de route. Indifférentes et indécidables sont les choses, vous dirait le punk. Et il ajouterait qu'au fond, on ne sait même pas qu'on ne sait rien. Le punk, donc, a quelque chose à voir non seulement avec Diogène, mais aussi avec le fondateur de l'école sceptique, Piron, qui a créé le pyrrhonisme. Et de la même manière que pour tout à l'heure Diogène, les quelques citations que je viens de faire en les attribuant au punk étaient évidemment de Piron. Voilà, pour le côté pour le côté plus perso, là j'ai parlé du politique, du philosophique, et maintenant je vais parler un peu de moi, non, ouais, enfin ouais. Voilà, on sait que le punk est issu du marasme économique de l'Angleterre des années 60 et de la Rotten Belt américaine de la même période. Moi, j'ai grandi à l'abri d'un petit milieu de profs gauchistes, mais juste avant mes 16 ans, à la toute fin des années 80, on m'a fait emménager dans une des pires banlieues françaises. Un milieu dont j'aurais jamais imaginé l'hostilité, ni le communautarisme. Il y avait déjà à l'époque des fondamentalistes qui s'adonnaient à leurs rituels religieux dans une langue barbare, qui contraignaient leurs femmes à avoir le plus d'enfants possible, à porter des tenues vestimentaires dégradantes. Absolument rien n'était prévu pour les jeunes de mon âge qui se retrouvaient à zoner et à dégrader cet environnement dégradant. Il y avait bien des jeunes qui essayaient de s'en sortir en faisant de la musique, déjà, mais je ne les connaissais pas. À part mes futurs potes quepons. Mais c'est là-bas que j'ai fait ma première garde à vue, que j'ai reçu mes premières baffes menottées, que j'ai rencontré mon premier juge d'application des peines, que j'ai fait mes premières tiges. C'est là-bas que j'ai participé à ma première baston de rue. J'ai reçu des coups de boule, ouais, super. Bon, je force un peu le stress. Hein. C'était ma première baston de rue, c'était aussi ma dernière. Quand j'ai vu ma compétence dans le domaine, je me suis dit qu'il valait mieux apprendre à courir. Et c'est plus en accord avec mon pacifisme radical. C'est là-bas aussi que j'ai découvert pas mal de défonces. D'abord, forcément, je n'avais que 16 ans. Hein. D'abord, l'éther, le triclo, l'eau écarlate. Et puis après, bien sûr, la picole, la fumette, les acides et tout le reste. Il faut dire que la ville où j'avais atterri était une vraie plaque tournante de toute la défense locale. Toutes les cités du coin venaient ici, c'était moins loin que Paris, parce qu'il y avait, de la thune. Puisque la ville dont je vous parle, ceux qui connaissent l'auront forcément reconnu, c'est Versailles. Voilà, à Versailles, il y a du fondamentalisme, il y a des messes en latin, il y a des poules pondeuses en chaussures plates et serre-têtes en velours. Et oui, il y a du communautarisme et même de la consanguinité, j'en ai connu, ils n'étaient pas de la famille de Christine Boutin. Voilà, les jeunes qui faisaient de la musique, ils faisaient pas du rap, hein, c'était les futurs membres de R ou de Daft Punk. Mais bon, je connaissais pas. Et les bastons, c'était avec des skins bourrés qui se tapaient l'incruste pour mettre du ska dans les soirées, ou bien des faf couleurs d'affiche. Bref, des mecs largement mieux équipés que nous, sur le plan pratique comme théorique, hein, le pays réel, le monde de la rue. Et voilà, eux, ils étaient assez fortiches pour animer ce genre de discussion déconstructive, quoi. Et puis alors, dans cet environnement, il y avait ceux qui allaient devenir mes potes de toujours. Enfin, pour ceux qui devaient y survivre, et qui, à l'époque, avaient créé, à ma connaissance, le seul groupe punk versaillais. C'est pas un oxymore, hein, y avait bien le punk versaillais existe aussi. Leur groupe s'appelait SS17, SS pour sexe symbole, hein, évidemment. Et voilà, ils avaient un fanzine qu'ils appelaient Défoliant, et c'était juste génial de les suivre. J'aurais trop aimé être comme eux, j'étais assez vite le chien du punk à chien, en fait. Ou non, j'allais me comparer à Kerouac qui regardait ses potes vivre, mais ce serait là un peu trop prétentieux de ma part. Voilà, c'était pas des punks au sens de la crête ou des épingles. Hein. Ils s'habillaient en noir, ils avaient des chaussures montantes avec de longs lacets relous. C'était des punks dans l'esprit, quoi. C'est-à-dire dans la contestation, la défonce et l'oubli. On était, enfin eux surtout, le cancer qui rongerait cette société pourrie de l'intérieur et quitte à crever, autant l'emporter avec nous dans les fosses communes de l'histoire. Hein, les familles qui se saignent aux quatre veines, les darons qui font de la réelle politique à l'échelle du foyer, tout ça. Allez, les institutions qui formatent et qui oppriment, l'hypocrisie morbide des relations sociales, la vie de mouton enchaîné qu'on nous a coquetté. Enfin bon, vous connaissez la chanson, nous, ça nous allait bien. Mais enfin, voilà. Alors, est-ce que c'est ça le propre du punk pour autant? Non. Ça, c'est le propre des courants contestataires qui ont mené au punk. Par exemple, l'international situationniste de Guy Debord et sa société du spectacle. C'est mai 68, où le premier texte de Renaud, Crève salope, qui est très amusant à réécouter avec la distance. Quoi. Il avait 16 ans quand il l'a écrit. Et finalement, le propre du punk, c'est pas tant le côté contestataire, c'est pas tant le constat qu'il dresse. Le propre, c'est plutôt la non-réponse qu'il apporte. Et c'est cette non-réponse qui est toute contenue dans la défense. La défense, à mon avis, en tout cas dans mon expérience, et puis il n'y a qu'à regarder quelques extraits par-ci par-là, elle est assez indissociable du mouvement punk. Puisqu'on va crever, autant s'éclater librement. Et puisqu'on doit détruire, autant s'autodétruire. Peut-être avec le recul, ce qui me chiffonne le plus dans ma fréquentation du punk, c'est la défense. Parce que le punk est peut-être pas mort, mais il est plus trop dans notre quotidien. En revanche, la défense, elle, c'est bien ancré, on l'a bien chevillé au corps. Et d'une manière générale, la défense est assez peu étudiée sociologiquement. C'est un peu tabou. Encore trop rares sont les ouvrages qui étudient la défense au travail. Le petit blanc cassis du balayeur, la coke du trader, le brown du cuisinier. Oui, dans les cuisines, on tape souvent du brown. L'antidépresseur de la secrétaire de direction ou les anxiolytiques du gars placardisé. Enfin, voilà. D'ailleurs, dans sa chanson « Bière et punk », Ludwig résume assez bien ce lien indissociable entre... entre punk et défonce, alors là, c'est la bière, mais enfin, la bière, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, ou peut-être la bouteille qui cache la seringue. Je vous mets juste le début avec les paroles. Le début avec les paroles, ça fait ça.
Bière et punk. Bière et punk. Bière et punk. Bière et punk. Bière et punk.
Je pense que vous avez eu le temps de lire les paroles. Enfin, il y a quelque chose d'assez proche hein, des paroles de Primitive et tout ça. Enfin, les petits oiseaux sont punk, tout est punk, mon Dieu. Oui, la défense est encore assez présente dans nos vies. Elle a évidemment évolué. Hein. Il est important de se tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. Et après, effectivement, la période dorée des acides ou de l'AMD, on a maintenant la kétamine, les drogues de synthèse comme le 3MMC, le MXPR, ce genre de trucs. Même là, on a synthétisé la substance active de l'ayahuasca, la DMT. Et c'est très présent. Alors, dans le monde techno aussi, évidemment, mais dans toutes les marginalités, ben, la défense... fait bonne figure. Ce qui m'amène au spirituel, forcément. Je vous disais, la caractéristique du punk, c'est peut-être le côté, c'est les formes de non-réponse aux questions existentielles et spirituelles. Et je pense d'une certaine mesure que le punk est à la recherche d'un état, en fait. Le punk en tant que personne, ou à la recherche d'un état, en fait, d'une forme de transe qui serait comparable à certains rites anciens. Mais que le monde sans âme dans lequel le punk évolue lui a irrémédiablement fermé les portes, quoi, coupé les ailes. Par exemple, juste le début du clip officiel de Ein Sturz an den Neubauten, Trinket, et que je vais mettre en regard avec un autre extrait après. Ça rend nostalgique, hein, pas vrai? Et maintenant, alors, je vais mettre en regard avec un autre film fait il y a plus de 65 ans.
Et la possession commence. Lentement, par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Et le premier possédé se lève, c'est Capral Gardi, le caporal de garde. Il salue tout le monde. Puis, il demande du feu, pour se brûler, pour montrer qu'il n'est plus un homme, mais un haouka. Devant ses saluts, un nouveau possédé se met à hurler. C'est Gerba, l'un des punis qui est dans la brousse. Gerba, qui est possédé par le haouka Samkaki, le conducteur de locomotive. Retroussant ses shorts, et le conducteur de locomotive va ramasser tous les fusils pour les porter sur l'autel du sacrifice.
Ah,
caporal de garde a reçu des écharpes rouges de commandement. Et le troisième possédé se lève, c'est Captain Malia, le capitaine de la mer Rouge, qui marche en faisant le slow march, la marche de parade de l'armée britannique. La locomotive a reçu aussi ses écharpes de commandement. Et voilà le quatrième possédé, Madame Locotoro. Madame Locotoro, la femme du docteur. Madame Locotoro minaude et reçoit une robe de femme. Le caporal de garde continue ses saluts empressés. Et la locomotive fait l'aller-retour entre le palais du gouvernement et la pierre de sacrifice. D'autres possédés sont en train de venir. Voici lieutenant Malia, le lieutenant de la mer Rouge. La respiration devient difficile, les yeux se révulsent. À côté, c'est le gouverneur qui est en train de venir. Le lieutenant appelle à l'aide. Mais c'est le caporal de garde qui vient aider le gouverneur. Le gouverneur est debout. Il parle français, il insulte tout le monde. Il appelle son lieutenant, et son lieutenant lui fait signe, il dit « Je t'entends, mais je ne suis pas encore arrivé. » Et le lieutenant vient saluer son gouverneur. Une femme est tombée sur le sol. C'est la Magasia, l'une des reines des prostituées d'Accra. Elle est possédée par un génie femme, Madame Salma. Madame Salma, c'est la femme du lieutenant Salmon, l'un des officiers français qui vint le premier au Niger à la fin du siècle dernier. Madame Salma a reçu la robe et le casque colonial. Elle va faire l'inspection de la nouvelle statue du gouverneur. Puis le lieutenant casse un œuf sur la tête du gouverneur. Pourquoi un œuf? Pour imiter le plumet que les gouverneurs britanniques portent sur leur casque. Car le voilà, le véritable gouverneur. Au Trooping de Colors, de l'ouverture de l'Assemblée à Accra. Canon tonne, et dans cette foule, il y a des Aouka qui sont venus ici pour chercher leur modèle. Et si l'ordre est différent ici et là, le protocole est bien le même.
Voilà, excusez-moi, j'ai pas tellement contextualisé. C'est un film de Jean Rouch, hein, le premier ethnologue et cinéaste à avoir donné la parole au continent africain. Et il parle de la secte des Aouka, qui est fondée en 1927, et qui, ce sont des gens qui venaient de la brousse, qui sont arrivés dans le bordel des villes, à qui on confiait des tâches ingrates, hein, creuser les égouts, faire les chaussées, etc., et qui, pour supporter à la fois la rupture entre leur environnement d'origine et la difficulté de leur quotidien, se réunissaient toutes les fins de semaine à l'extérieur de la ville pour... en créant cette religion faite de tout ce que les autres religions interdisent. Hein, consommer du chien, enfin faire adorer un autel en béton armé et convoquer des esprits qui sont ceux des colons. Voilà, j'espère que vous voyez le lien que j'établis un petit peu entre le clip de Ashton Zenden Neubotten et puis cet extrait des Maîtres Fous. Accessible sur YouTube, un documentaire passionnant et très généreux. Donc voilà, alors la spiritualité telle que je la définis rapidement, c'est pas l'apanage des religions, ni des déismes, et encore moins des idéalismes. C'est une sorte d'action mentale qui consiste à donner un sens personnel et à chaque fois renouvelé au chaos du monde. Le punk ne se fait pas d'illusions sur le dit chaos. Il sait qu'il est là, que l'ordre n'est qu'une impression, une illusion. L'ordre, comme disait Épicure, n'est qu'un cas particulier du désordre. Et le punk, je pense, dirait la même chose. Il n'est pas exact, par exemple, de dire que le mouvement des étoiles obéit à des lois mathématiques. il est plutôt exact de dire que notre observation des étoiles obéit à des règles mathématiques et que quelque part on est nous-mêmes issus d'un ordre particulier de la matière qu'on appelle la vie et d'un ordre particulier de la vie qu'on appelle la conscience intellectuelle, quoi. En fait, on croit qu'on a tout compris, alors qu'en réalité, lorsque on regarde le ciel, lorsque l'astronome regarde le ciel, il est un peu comme Narcisse quand il se contemple dans la flotte. Au lieu de voir la flotte, il voit son reflet. Et le punk, quelque part, en tant que mouvement de pensée, a su déchirer ce voile pour regarder en face le néant qui nous attend. Pour conclure sur cette idée de spiritualité et recoller un peu avec la philo, il y a cette phrase de Montaigne, que mon grand-père aimait beaucoup utiliser, un peu comme un mantra, et qui disait « Pourquoi prenons-nous titre d'être ce qui n'est qu'un éclair dans le cours infini d'une nuit éternelle et une interruption si brève de notre perpétuelle et naturelle condition ?» Ainsi, au nos futurs du punk, quelqu'un comme Montaigne ou d'autres dirait même plus « Nos futurs, nos past, nos present ». Merci beaucoup.
Merci.
Ça va, on n'est pas. Ça marche. Voilà, je vais. Merci tout d'abord pour cette superbe communication qui introduit bien et assez largement cette question existentielle du punk et qui nous ramènera probablement vers les Bérus et le punk ou le rapport des Bérus au punk. Voilà, à travers ce prisme que tu as développé. Donc je donne la parole.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que. Vous pensez que cette philosophie, cette pensée punk, qui est donc très ancrée 70, avec la défonce, tout ça, tout ça, s'est vue être ringardisée dans les années 80, voire mis au banc, à l'arrivée de la mouvance américaine straight edge, à base de non-prise de drogue, alcool ou de sexe, qui a marqué au fer rouge les anarcho-punks et les hardcoreux, qui ont préféré se dissocier des vieux punks vus comme beauf has-been, qui pensent que juste à se défoncer au lieu de penser la révolution. Est-ce que dont les vieilles stars sont vues comme être commerciales. Est-ce que vous pensez que cette pensée du coup a été regardisée ou pas?
Ouais. Peut-être que certains collègues musicologues auront un avis un peu plus tranché sur la question. Moi, ce qui m'intéresse dans le punk, c'est l'expression d'une forme de une forme de résistance, de contestation, est très typique, à mon avis, de la période des années 70-80, avec l'ultralibéralisme et le thatchérisme, c'est-à-dire, c'est une contestation, mais qui propose rien. C'est juste, on va contester, on va pas dire, on va inventer un nouveau système, on va aller manifester, on va dire non, et ceci, et de ce point de vue-là, c'est quand même assez radical, et je suis pas sûr qu'on puisse ringardiser quelque chose de radical. Et à mon avis, peut-être que ça a changé de forme musicalement, mais je serais pas surpris que dans le monde, je sais pas, par exemple, enfin, ouais, je sais pas trop par rapport aux mouvements musicaux à proprement parler, je sais qu'on retrouve encore cette forme de radicalité, ce côté un peu clochard céleste, dans plein de sphères différentes, quoi, en techno, dans la rue, ailleurs. Donc,
Je vais faire passer le micro, mais j'en profite pour te poser une question, Sébastien. Dans le fond de négativité que tu décris bien, tu fais l'impasse ou tu oublies, et je voudrais que tu commandes cet oubli, s'il est volontaire ou involontaire, ce qui a été la positivité du punk, qui est bien apparu aussi hier, dans le fait que le punk n'est jamais seul. Comme le disait quelqu'un hier, un punk seul, c'est pas vraiment un punk. Un punk, il est dans le groupe. Et donc finalement, la positivité qui ressort de cette négativité, c'est le groupe, c'est qu'on s'agglomère en tant que punk. Et là, il y a un élément que tu abordes pas. Inscrirais dans ta vision du punk.
Alors, c'est vrai que j'ai considéré que toutes les choses bien positives auraient sûrement été dites hier. J'ai mentionné très vite cette espèce d'esprit de corps, hein, de corps de garde, quoi. Quand je parlais des youpies, il y a quelque chose un peu du phénomène de groupe. Est-ce que c'est positif, le phénomène de groupe? Je sais pas. Je sais pas trop. Je me sens pas hyper. Je me suis jamais senti tellement à l'aise dans les groupes. Pour moi, les punks, ils sont potes. Enfin, est-ce que oui, bien sûr, c'est bien d'avoir des potes, mais il faut voir ce qu'on fait avec. Si à la fin, on a, comme c'est le cas de notre petite bande, on a eu 3 défenestrations et puis des gens qui s'injectent encore de la cocaïne aujourd'hui et qui essaient de trouver un sens à leur vie, on est là pour les soutenir et leur dire tu préfères pas fumer un joint. Enfin, mais oui, je botte un petit peu en touche. J'en ai bien conscience.
Juste un témoignage pour prolonger un petit peu ce que tu disais. Alors, je ne vais pas parler du punk, je vais parler plutôt de mon expérience personnelle du punk. Pour moi, ma période punk, ça a été vraiment une période initiatique à différents niveaux.
Oui, moi aussi.
D'abord parce que j'ai appris que tout était possible, que ça m'a permis de faire de la musique que je n'aurais jamais fait sinon. Les drogues, elles m'ont ouvert des perceptions, des accès à certains mondes auxquels je n'avais pas accès en état non modifié de conscience, on va dire. Et déjà à l'époque, on était, alors pas tous dans la raya, mais je veux dire, on était quelques-uns quand même à se dire, mais en fait, on est persuadé que ces états-là, on peut les retrouver sans drogue. Et c'est ce que j'ai découvert dans le chamanisme. J'ai retrouvé aussi que tout est possible. J'ai retrouvé aussi que les états modifiés de conscience, moi je fais plutôt du chamanisme au tambour, donc j'étais batteur, tu vois, j'ai arrêté la batterie, mais finalement je me retrouve à jouer du tambour et à être dans ces sonorités, ce rythme finalement, qui c'est lui qui va modifier en fait les ondes de notre cerveau et nous permettre de faire des voyages chamaniques, des choses comme ça. Et je retrouve vraiment les choses de l'époque que j'avais touchées du doigt, notamment avec la psilocybine, avec des choses comme ça, et que je retrouve là finalement sans prendre aucune drogue, à vivre des trucs de dingue, quoi.
Ouais, ouais. C'est vrai que je parle beaucoup j'ai appelé mes potes pour savoir ce qu'ils pensaient du punk et des berrues, et ça continue aujourd'hui, donc il y a quelque part en filigrane dans mon intervention le soutien de mes copains. Pour le chamanisme, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai l'impression que la drogue, ça rend vachement feignant. C'est-à-dire qu'en fait, avec un minimum d'effort, t'as un maximum d'effet. Et puis, ton cerveau, il prend cette routine et tout. Et ça ressemble bien à notre société. Effectivement, toutes les sociétés ont quelque part des directeurs de conscience, appelons-les des chamans. Et je me suis demandé, nous, dans notre société, c'est qui sont nos directeurs de conscience? Toutes les tribus, toutes les sociétés ont des chamans, et nous, on a quoi? Des anesthésistes. En fait, on a un rapport complètement utilitariste à la conscience. En fait, oui, nos directeurs de conscience aujourd'hui, ce sont des gens qui vont apprendre à nous endormir une partie ou pas du cerveau. On va aller chercher des choses, mais moi, je suis parti du côté de la méditation. J'ai fait un vipassana, ce genre de truc, et j'ai découvert qu'effectivement, on pouvait d'abord faire en quelque sorte se désintoxiquer de la fainéantise de nos neurones du plaisir et tout, et dans un vrai travail qui correspond plus à la deuxième phase de la vie, quand on commence à avoir des rides et des cheveux blancs, alors on se dit ouais, je vais faire un truc un peu sain qui dure longtemps. Je pense que c'est une évolution un petit peu normale, enfin, c'est pas forcément souhaitable tout de suite, je ne conseillerais pas forcément à tout le monde dès le début de commencer par vipassana, mais peut-être s'éclater avec les potes et après voir.
Vipassana, c'est une retraite dans le silence de 10 jours. Hein.
Ouais, 10 jours et demi. Ah, le 11e, c'est comme
silence
les 3
total.
Ans. C'est comme les 3 ans, 3 mois, 3 jours du bouddhisme. Tu te dis au bout de 10, ça c'est fini. Non, il y a encore le 11e.
Donc je connais bien Vipassana pour l'avoir fait plusieurs fois. Notamment, j'ai eu la chance de rencontrer Goen Kaji en 89 à Damamaï, en Bourgogne. Voilà. Mais enfin, et tout ça pour dire, en fait, pour moi, les drogues, c'était génial. Et c'était d'autant plus génial qu'à un moment, j'ai tout arrêté. Parce que j'ai tout arrêté parce qu'en fait, au départ, les drogues, pour moi, c'était l'éclate, ça m'amenait quelque chose. Et au bout d'un moment, ça ne m'amenait plus rien, ça me retirait des choses. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté. Et je me rappelle, quand c'est lors d'un stage justement de chamanisme, où j'étais musicien, on faisait un truc de chamanisme avec Valérie Tremblay, qui était la femme d'Alexandre Jodorowsky à l'époque. Et à un moment, j'avais 200 grammes de bœuf, et j'ai tout brûlé.
Mais non.
J'ai tout brûlé. Et les copains, ils m'ont dit, mais t'es complètement barjot, quoi. T'as brûlé 200 grammes de bœuf, mais t'es malade.
Tu t'es mis la tête au-dessus avec...
Nous le donner et tout, quoi. J'ai dit, non, mais moi, c'était hyper important pour moi, acte symbolique et tout. Et j'ai jamais refumé depuis, puis je suis passé vraiment à autre chose. Mais je pense que c'est ça peut ouvrir des champs. Après, le problème pour moi, c'est que, quelque part, si tu restes là-dedans, ça veut dire que quelque part, les champs qui t'ont ouvert, tu n'es pas capable de les trouver autrement. Alors que pour moi, c'est tous ces trucs-là, tu les trouves à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur.
Ah oui. Tout à l'heure, tu disais que ça ouvre sur des mondes, c'est des mondes intérieurs, quoi, bien sûr. Ça ouvre pas à des réalités alternatives, parallèles ou virtuelles. Ouais. On est d'accord.
Ouais. Alors, Monique Blanquet, Radio FMR Toulouse. Bonjour, oui, enchantée. Où le groupe Zebda donc, a officié en tant que tu as exposé. Je résiste un peu sur le fait que tu dises que le slogan « J'emmerde le Front National » a seulement emmerdé le Front National. Je pense qu'il y avait quand même quelque chose de plus qui ralliait une protestation au-delà d'emmerder juste les FAF. Quoi. Et d'ailleurs, ça a marqué les esprits, la mémoire collective. Bon. Et de la même manière, tu dis que le groupe Zebda et Berrure Noir, et Berrurier Noir n'a existé que parce qu'en gros, il y avait Mitterrand au pouvoir et qu'il n'aurait pas pu exister dans un autre contexte.
Pas pu connaître le succès qu'ils ont connu, peut-être. Enfin, Zebda, je connais pas. C'est Nicolas Lebourg qui cite Zebda. Ouais, je ne sais pas si
donc,
c'est contemporain des Berrurier.
Ça, c'est pas trop vrai, je trouve. Voilà. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi là-dessus. C'est un petit raccourci là, qui est un peu... Bon, qui est un... qui peut-être te permet de faire un jeu de langage, mais non, Zebda, il y avait, c'est pas parce qu'il y avait Mitterrand au pouvoir que Zebda s'est développé. Mmh. Et les Berruriers Noirs, bon, ben, je pense pas non plus.
Ouais.
Bon, voilà, c'est juste cette petite remarque.
Oui, moi, ce qui m'intéressait un petit peu, c'était la valeur argumentative, la valeur d'éducation politique ou de conscience de classe des textes des Berrues et tout ça, quoi. Le salut à toi, par exemple, salut à toi, cette espèce d'inventaire à la Prévert, pourquoi ça ne dure que 4 minutes sinon pour passer à la radio ? C'est un concept de chanson qui serait interminable, on pourrait étendre à l'infini, on pourrait faire des saluts à toi pour encore aujourd'hui et tout ça. Bon, c'est un peu de la provoque, excusez-moi. Voilà.
Et bah, je crois qu'on va en parler juste après avec Pierre, donc là la transition elle est toute trouvée, donc s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment... alors voilà, si on prend une dernière question pendant que tu t'installes, et puis tu vas nous développer la profondeur de la liste à la Pérec de salut à toi, c'est formidable.
Bonjour, juste une précision qui est pas si... tu sais, tu as évoqué Screwdriver, le fer de lance du Rock Against Communism.
Deuxième période.
Oui, mais c'est pas juste en fait de dire que la première période, ils étaient engagés à gauche. C'est, tu vois les textes du premier album ou des 45 tours ou de Back With A Bang. C'est la plupart des textes, ils se posent comme marginaux, antisocial. Hein, y a un texte qui s'appelle comme ça. Mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas d'engagement particulier politique.
D'accord.
Et surtout, ce que ne savent pas la plupart des gens, c'est que Ian Stuart, le chanteur, et Greeny, le premier batteur, étaient déjà au National Front à cette époque-là.
Ah oui.
Très, très tôt. Extrêmement tôt. Ça ne retient rien. Moi, j'adore les premiers disques de Screwdriver. Et il n'y a rien de politiquement incorrect dans les textes au début.
Ouais.
Mais déjà, deux membres du groupe étaient au National Front à ce moment-là. Quoi.
Ouais,
donc ils n'ont vraiment jamais été engagés à gauche. Voilà.
Merci beaucoup, Sébastien.
Avec plaisir.